Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver, bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous patrimonial hebdomadaire. Chaque mercredi matin, vous en avez l'habitude, on passe une petite heure ensemble avec la crème des experts qui viennent vous offrir telle initiative ou tel dispositif pour gérer au mieux votre épargne ou vous éclairer sur l'actualité de vos placements. Alors au sommaire de ce 40e numéro de Cœur de patrimoine, on va commencer par une touche d'immobilier en parlant démembrement ou comment monétiser finalement une nue propriété que vous auriez reçue par exemple en donation ou en héritage. Et puis on fera ensuite un détour par les marchés financiers. Vous êtes nombreux et nombreux à nous interroger pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Et puis alors qu'on est à moins d'un mois de la campagne de déclaration d'impôts, on va faire un panorama de la fiscalité 2025. C'est donc parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on rentre donc dans le vif du sujet avec cette première partie immobilière. On accueille Yigal Nathan, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur associé de René Coste. Je le disais en préambule, on va parler démembrement, nue propriété, usufruit. Ce sont des termes que l'on évoque très souvent quand on est en gestion de patrimoine. Mais ça vaut peut-être le coup qu'on repose un petit peu les principes sur le bureau avant de commencer. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce qu'est finalement une nue propriété, ce qu'est l'usufruit, comment l'un se distingue de l'autre dans ce monde immobilier en tout cas?
Oui, tout à fait. Vous faites bien de le rappeler, la propriété, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est toujours un faisceau de droit. On a l'impression que c'est un droit monolithique, mais effectivement, la propriété est un faisceau de droit. On en retient en général trois grandes parties. Premièrement, l'abusus, ce qu'on appelle aussi la nue propriété, c'est-à-dire le droit de disposer de la chose, de le détruire, de le vendre. Le usus, le droit d'usage, donc le droit d'utiliser la chose dont on est propriétaire de ce droit. Et puis enfin le fructus, le droit d'en retirer un fruit. Donc effectivement, dans le cadre d'un démembrement de propriété, eh bien on va séparer la nue propriété, l'abusus, de l'usufruit, qui comprennent les droits d'user du bien et en retirer des fruits. C'est effectivement quelque chose qu'on connaît bien dans l'immobilier, mais qu'on connaît encore mieux dans d'autres secteurs, comme par exemple l'automobile, puisque vous savez bien qu'en une quinzaine d'années, le marché de l'automobile est passé de la propriété au démembrement de propriété, la LOA, la LDD, le leasing automobile. Et donc, alors qu'il y a une vingtaine d'années, on était à 100% en propriété, on est passé sur un marché 90%.
Les mots tout techniques de démembrement, d'usufruit et de nue propriété quand on parle de LOA ou de LDD ou de leasing, effectivement. Quels sont les principaux défis, du coup, qui se posent sur ces biens immobiliers lorsque un épargnant, j'ai envie de dire, même si c'était pas vraiment de l'épargne au départ, mais enfin, lorsqu'un héritier, tiens, est confronté, lorsqu'il reçoit finalement la nue propriété, j'imagine que c'est ça essentiellement qu'on reçoit, dans le cadre, soit d'une donation, soit encore mieux d'un héritage.
Eh ben, vous avez raison. Dans toute gestion active du patrimoine, on peut investir en nue propriété dans un bien, on peut démembrer des titres de SCI, SCPI et puis pour investir, mais dans tout décès, en tout cas quand il y a un couple et un conjoint survivant, le droit français accorde au conjoint survivant l'usufruit à vie pour la maman, le papa qui reste évidemment usufruitier de la résidence, et les enfants, les beaux-enfants, vont hériter de la nue propriété. C'est la même chose, c'est le même démembrement qui se passe quand, sur conseil d'un notaire ou d'un conseiller en gestion de patrimoine, je vais démembrer mes parts de SCI ou une partie de mes biens immobiliers pour en faire la donation à mes enfants. D'accord. Évidemment, c'est toujours une optimisation. Et on se retrouve dans le cas que vous présentiez il y a quelques instants, avec des héritiers ou des récipiendaires de donations qui se retrouvent avec une nue propriété, donc c'est-à-dire un capital, mais ils ne peuvent ni en jouir, ils n'ont pas l'usus, ni en retirer des fruits, ils ne peuvent pas le mettre en location, ils ne peuvent pas en retirer des
puisque
dividendes,
tout ça reste,
ils n'ont pas le fructus.
Au conjoint survivant, ouais.
Exactement. Et que faire de cette nue propriété? C'est là qu'on peut intervenir.
Et là, c'est la Chronecost à Gamberger et propose une solution qui peut être intéressante et qu'on va présenter donc ce matin. C'est Erit Immo. Et la promesse, c'est de monétiser finalement cette nue propriété, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, Chronecost, depuis une centaine d'années, hein, puisque la maison est créée en 1921 par Madame Chronecost. On est spécialiste du démembrement de propriété, viager, nue propriété, cession bail à vie, vente à terme. Et on avait pour habitude de vendre des nues propriétés à des investisseurs, mais on était souvent à l'origine du démembrement, c'est-à-dire que l'occupant, le propriétaire, conservait la jouissance via usufruit du bien et céder à un investisseur professionnel ou particulier la nue propriété. Et puis, on s'est retrouvé contacté par des héritiers, des enfants qui avaient reçu des nues propriétés en donation et qui disaient « moi, j'ai ce patrimoine, mais j'ai besoin de le monétiser. J'ai besoin de monétiser ma succession, mon héritage. Est-ce que vous pouvez m'aider ?»
Et alors, concrètement, ça marche comment ? Quel est le processus qui part finalement d'un morceau de papier, entre guillemets, qui nous dit « vous êtes, ok, nu propriétaire, super », et de lui faire faire des petits.
Exactement. J'ai mon titre de propriété, de nu propriétaire du bien. Je l'ai reçu en succession au décès d'un des parents ou en donation. Je vais vendre cette nue propriété à un investisseur particulier ou professionnel. Et je vais transformer ce capital immobilier que je ne peux pas utiliser. Je vais le transformer en liquidité financière puisque je vais être remplacé par un investisseur.
On se repasse, entre guillemets, la patate chaude, quoi.
On se repasse l'investissement. On a en France des dizaines de milliers d'investisseurs qui sont à la recherche d'investissements en nue propriété. Ça peut être via Chronecost, ça peut être via de l'usufruit locatif social que font nos amis de chez Perle ou ailleurs. Donc, on a ces investisseurs qui, eux, sont là pour du placement à long terme, qui ne sont pas pressés, au contraire, qui veulent cet investissement immobilier de capitalisation, hein, sans revenu, mais un investissement immobilier par capitalisation. Et on a ces propriétaires de nues propriétés, héritiers, donataires, qui ont besoin, eux, de liquidités. Eh bien, effectivement, on organise cette transaction en toute sécurité, en préservant les droits de l'usufruitier.
Et il y a entre guillemets des... Enfin, oui, on comprend mieux, on rend le capital liquide, mais il y a d'autres avantages, on va dire, financiers pour un héritier de vendre cette nue propriété ?
Ah, l'urutier, son avantage, c'est qu'à un moment, il a besoin de liquidité. S'il n'a pas besoin de liquidité, oui, il peut rester investi, à condition que ça soit sa stratégie patrimoniale, parce que c'est des investissements long terme de capitalisation qui ne génèrent pas de revenus. Mais l'intérêt, en fait, quel est le cas d'usage principal, les cas d'usage principaux de nos clients, ce sont les gens qui ont besoin eux-mêmes d'acheter une résidence principale. À un moment, ils ont besoin de ce capital initial, sauf que il est bloqué dans cette nue propriété, ou les gens qui ont des projets professionnels à financer, et effectivement, on leur permet de générer cette liquidité.
On rappelle, c'est comme un viager, mais c'est pas comme un viager où généralement vous ne connaissez pas la personne pour laquelle vous achetez la nue propriété. Donc bon, il y a pas forcément de sentiment qui se crée. Là, généralement, vous êtes en train de nous parler d'héritiers dont un parent survivant est encore présent. Comment ça se passe? Comment notamment le contrat garantit les droits de l'usufruitier? Il pourrait se sentir un peu abandonné par ses héritiers, non ? De les voir partir comme ça en vendant la nue propriété.
C'est une très bonne remarque, Cédric. En fait, dans un cas sur deux, ce sont les usufruitiers qui nous contactent.
D'accord.
En général, la maman, la belle-maman, alors il peut y avoir aussi dans le cas de famille recomposée des situations familiales qui sont conflictuelles, donc là on va venir régler le conflit en donnant son argent à l'héritier en maintenant l'usufruitier dans ses droits, mais en général la maman, c'est elle qui nous contacte en disant je sais que mes enfants, ils ont besoin de cet argent, moi je veux pas partir de chez moi, je veux y rester toute ma vie, donc j'aimerais leur trouver une solution pour qu'ils puissent récupérer l'héritage de leur papa ou l'héritage de leur maman.
Le droit de l'occupant, Il est totalement préservé, il n'y a rien qui change
Il est souvent même renforcé. Alors évidemment, il ne peut pas être dégradé, hein, puisqu'on reprend la convention de démembrement dans l'état où elle avait été faite par le notaire au moment de la succession ou de la donation. Mais parfois même avec un investisseur professionnel ou avec un investisseur particulier, puisque les choses sont bien plus normées que dans des transactions intrafamiliales, il arrive même que l'usufruitier soit bénéficiaire parce que, par exemple, même si certaines charges ou certains travaux sont à la charge du nu propriétaire, il arrive que la maman ou le papa ne fasse pas payer les enfants. Évidemment que, c'est ce que vous disiez, avec un investisseur professionnel que je ne connais pas, la relation...
J'ai pas forcément envie de...
de lui faire de cadeaux. Et les choses se font telles qu'elles sont définies dans le contrat.
Est-ce que, avec le retour d'expérience, vous avez, on va dire par un portrait robot, mais le cas ou les deux, trois cas les plus fréquents où cette possibilité est utilisée.
Oui. Alors, j'adore cette question. Quels sont nos usual suspects? C'est ça, votre question. Premièrement, famille recomposée. Donc, en général, quand il y a les enfants d'un premier mariage avec la belle-maman ou le beau-papa, ils n'ont peut-être pas envie, surtout parfois, ils ont le même âge, les enfants du premier mariage, donc ils n'ont pas envie de prolonger cette relation conflictuelle. Donc, à un moment... L'idée, c'est que chacun récupère sa partie de l'héritage sans qu'il n'y ait plus de relation. Ça, c'est premier usual suspect. Le deuxième, c'est dans le cas de donation. Donc, il arrive souvent sur conseil du notaire ou du CGP que, par anticipation, on donne des biens en démembrement à des enfants jeunes, quand ils ont 12, 13, 15 ans, 18 ans. Il peut arriver que 10, 15 ans après, les enfants, eux, ils ont vraiment besoin...
La situation patrimoniale a changé.
Exactement. Ils auraient besoin de cet argent-là. Les parents continuent à louer ce patrimoine qu'ils avaient donné en démembrement. Ils ont besoin encore, en complément de retraite, des loyers. Donc, ils conservent les loyers, mais on leur apporte une solution pour que gratifier de liquidités financières d'un capital leurs enfants.
Juste, dernière question, peut-être, Yigal Nathan, c'est tout ou rien? Parce qu'on pourrait imaginer un cas un peu particulier d'une famille avec effectivement un des deux parents survivants, une nue propriété qui a été divisée entre plusieurs enfants, et seul peut-être un des enfants a besoin de liquidité, pas les autres. C'est soit on fait toute la nue propriété, ou on peut là aussi la découper et finalement associer un détenteur de nue propriété. Enfin voilà, je me fais un peu l'avocat du diable, mais...
Techniquement, rien n'interdit.
Ouais, mais en fait, ça n'existe pas.
Mais
quoi.
En vrai, le fonctionnement d'une indivision est déjà compliqué en soi. On ne va pas rentrer un investisseur particulier dans une situation conflictuelle avec des frères qui veulent vendre et puis des frères qui ne veulent pas vendre.
Quel conseil, pour finir, on donne peut-être à tel ou tel auditeur, auditrice qui nous entend matin et qui se dit, peut-être c'est pour moi.
Si un de vos auditeurs est propriétaire de toute ou partie d'une nue propriété, parce qu'après il peut s'entendre avec ses co-nus propriétaires, et qu'il a besoin de liquidités pour financer un projet professionnel, un projet personnel, un investissement immobilier, je les incite à nous contacter et on est capable de faire une évaluation de leurs droits au prix du marché et de leur indiquer la faisabilité ou non de cette monétisation.
Eh bien voilà, ça s'appelle Hérite Immo. Yigal Nathan, merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine. On poursuit notre petit voyage ce mercredi.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on poursuit donc notre voyage au cœur de votre patrimoine. Et on s'intéresse à présent au marché financier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont au cœur de ce monde financier depuis notamment, bien sûr, l'arrivée de Donald Trump et ses premières mesures. Mais on va le voir, il n'y a pas que ça. Et c'est Marc Favard qui va nous guider ce matin. Bonjour Marc.
Bonjour Cédric.
Merci d'avoir rejoint le plateau de Radio Patrimoine, directeur général de Promépar AM. Bon, allez, déjà, quand vous regardez comme ça, là, tous les matins, les marchés en vous réveillant, vous vous dites quoi? Quels sont un petit peu les gros marqueurs, l'évaluation que vous faites de cet état de santé un peu des marchés mondiaux?
Alors, quand je suis un investisseur, je suis quand même content parce que je gagne quand même de l'argent en général sur les actions, sur les taux. Donc, malgré tout ce qu'on a autour de nous, les performances restent encore satisfaisantes et énormément de changements. Alors, la chose peut-être la plus importante sur laquelle on va travailler pour les prochaines années, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une croissance mondiale toujours autour de 3,2%, mais avec des changements de régime. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur les États-Unis, on va vers un ralentissement, mais est-ce qu'il sera plus profond? Ça, c'est la question sur laquelle on peut revenir. Mais quand même quelque chose d'assez différent en Europe et même en Chine, où là, on peut espérer un peu plus de croissance. Donc le débat, c'est un peu une normalisation de la croissance dans le monde, donc un petit peu moins aux États-Unis. Et on va voir, faut pas que ça descende beaucoup trop bas. Et puis l'espérance qu'en Europe, on a un moment important.
Bon alors, nos États-Unis, et d'abord l'animal Trump, entre guillemets. On a vu que son arrivée avait eu pas mal d'effets sur les marchés, notamment avec des questions, des interrogations. Comment vous voyez les répercussions à plus long terme, justement, si on essaie de se dire, voilà, on sort un peu de l'écume du mouvement du bonhomme et on regarde un peu ce que ça peut donner en termes de changement de ton
Alors, je dirais qu'il fait du bien à l'Europe. Hein. C'est-à-dire que la première bonne nouvelle, c'est qu'il nous oblige à nous remuer. Et depuis le rapport Draghi en septembre jusqu'au rapport de compétitivité il y a encore quelques semaines, plus le bazooka allemand, on est servi. Donc là, l'Europe réagit et tant mieux. Ça, c'est la première bonne nouvelle du côté de Trump. Par contre, le bas de Trump, c'est beaucoup d'incertitudes sur le commerce et extrêmement difficile pour les économistes de faire des stratégies, de même de mettre des probabilités sur des stratégies. Que va devenir l'inflation ? C'est un sujet. Les niveaux de croissance, donc les niveaux d'incertitude et les index, il y a des indices d'incertitude, ils n'ont jamais été aussi importants. Ouais. La vie des marchés, c'est quelque chose de volatile. Par contre, la vie économique, c'est moins volatile normalement. Donc, beaucoup de zones d'inconnu.
Mais est-ce que d'ores et déjà, j'ai envie de dire, la volonté économique de Trump, elle vous a conduit à modifier, à impacter un petit peu vos stratégies d'investissement déjà chez Premier Part? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben ça déjà, faut plus qu'on le fasse ou faut qu'on le fasse différemment?
Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'on va quand même vers moins de croissance aux États-Unis, plus en Europe, plus en Chine. Donc la diversification de portefeuille n'a jamais été autant d'actualité et peut être payante. On voit bien qu'en 2024, c'était la concentration, l'exceptionnalisme américain, les méga seven. Ça, c'est quelque chose qui change. Donc dans les portefeuilles, c'est certainement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors pour un Européen, je dirais qu'on avait certainement pas pris la hausse l'année dernière des États-Unis, ni le dollar, ni les méga seven. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a une réadaptation des portefeuilles certainement à faire. Alors nous, ce qu'on a pu faire, c'est il y avait des secteurs, tous les secteurs liés un petit peu aux tarifs, faut certainement faire attention. Donc ça peut être à la fois les Apple, les GAFA américaines, mais aussi évidemment les valeurs de boissons, les valeurs de luxe. Donc c'est peut-être pas les sujets sur lesquels il faut aller. L'automobile, c'est des sujets compliqués, mais on avait certainement un boulevard depuis un certain temps sur les banques européennes et les courbes de taux, avec des taux courts qui baissent et des taux longs qui montent, c'est quand même un grand bonheur pour les banques. La thématique quand même de la défense et tout ce qui va avec, donc il y avait de quoi faire et de faire bouger ses portefeuilles. Et le maître mot pour moi, c'est la diversification peut enfin payer.
Alors, depuis qu'on se cause, on a beaucoup parlé d'économie avec les impacts, effectivement, des uns, des unes et des autres. On reviendra notamment sur l'Allemagne et sur l'Europe parce que c'est très intéressant. Mais il y a aussi d'autres défis, des défis géopolitiques. Enfin, voilà, on ne va pas se lancer dans une analyse géostratégique de la situation avec la Russie et l'Ukraine. Mais il y a aussi la question de la Chine, là, pas du tout économique, mais de la Chine et éventuellement de Taïwan et des choses comme ça. Sont des défis auxquels on est confronté aussi et qu'il faut prendre en compte.
Oui, chaque zone, on a une régionalisation. Il y a la Grande Amérique qui peut aller jusqu'au Groenland en ce moment. La Chine qui mettra ou pas la main d'une manière indirecte sur Taïwan et l'Europe qui subit ces deux monstres. Donc là, ce qui est important, c'est un moment un peu de tournant. On n'en a pas souvent, donc je pense qu'il faut le saluer. Et on va voir comment tout ça s'exécute. Donc aujourd'hui, on avait trop, peut-être un peu trop de croissance aux États-Unis, avec trop de tiré par des déficits. Trump voulait plus de croissance, voulait que on consomme aussi en Chine, aux États-Unis, au profit de l'Amérique. Et on vit ce changement, ces changements de polarité, et on les voit un petit peu partout sur la croissance entre les zones, sur les thématiques d'investissement, sur des divergences de politique monétaire. Vous voyez, au Japon, on remonte les taux parce que les salaires remontent. Aux États-Unis, on est en statu quo, et on espère qu'en Europe, on va continuer à les baisser, parce qu'en Europe, ce qui est important, il faut un plan budgétaire, mais il faut aussi un policy mix pour l'Italie, la France, qui ne pourront pas forcément relancer, mais auront besoin de taux bas.
Alors, justement, rentrons sur cette zone européenne qui nous concerne au premier chef, bien évidemment. Et il y a eu ce changement de paradigme en Allemagne. J'ai envie de dire, on est passé du tout au tout, C'est Picsou qui a ouvert le coffre-fort, ou presque, ou qui s'apprête à ouvrir le coffre-fort. Vous le voyez comment ? C'est un impact potentiel énorme sur notre économie européenne, là, pour
le coup. Oui, on ne va pas bouder notre plaisir, hein, c'est quand même très, très positif. C'est le plan Biden qui s'applique en termes de montant en Allemagne, et avec tout le ruissellement qu'on peut avoir. Il faut savoir que les déficits européens sont autour de 80-85%, les États-Unis ont 55%, donc toute l'Europe et l'Europe protestante a de quoi faire. Et d'ailleurs, on a tout le ruissellement possible, indirect, qui arrivera pour... si la grande économie qui fait 25% du PIB va bien, ça va aider. On avait en Europe seulement l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Là, ça change un petit peu l'histoire. Après, ça va être dans l'exécution. Est-ce qu'on va être capable d'exécuter ça assez vite ? On sait que les effets court terme économiques ne vont pas être présents, mais les effets de confiance peuvent être présents et on le voit déjà un petit peu dans les flux boursiers.
Et tout ça peut avoir un impact sur les banques centrales, que ce soit Trump, que ce soit ce changement de paradigme en Allemagne. Effectivement, vous nous avez dit un mot de ces taux. Les banques centrales, on avait l'impression qu'elles n'étaient peut-être pas sorties du jeu, mais que voilà, c'était Trump qui allait prendre toute la lumière. Et là, tout le monde dit, oui, mais alors attention, parce que si Trump génère plus d'inflation, comment va réagir la Fed, etc. La BCE, comment est-ce qu'elle va appréhender effectivement cette nouvelle donne allemande ? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette évolution des taux d'intérêt ? Quel impact ça pourrait avoir sur les portefeuilles ?
Alors, côté américain, on voit bien que Trump ne tape pas sur Powell. Il a quand même besoin à un moment que... Probablement que les taux baissent, les conséquences des hausses des tarifs sont peut-être inflationnistes à court terme, mais déflationnistes. Donc les marchés obligataires l'ont peut-être aussi un petit peu vu. Donc ça serait certainement possible que la Fed à un moment réagisse. Donc le put Fed puisse arriver, mais faut pas trop qu'il arrive non plus, parce que ça voudrait dire que ça ralentit fort. Côté Europe, moi je pense que la BCE doit continuer, on doit amener les taux sous les 2%, parce qu'il faut cette double politique, parce que le court terme de la BCE va permettre d'absorber quelque part des tarifs qui seraient amenés à remonter, et les plans d'infrastructure, les plans de relance, on va les voir sur le long terme. Et les pays du Sud, Italie endettée, la France, ont besoin de... Parce que nous, on a moins de marge de manœuvre. Donc on a, je l'espère, une BCE qui continue le mouvement où on additionne les deux, le monétaire et le budgétaire.
Quels sont pour vous les... Je ne vais pas vous demander de me sortir des prévisions chiffrées sur les marchés européens à X mois, mais vous les sentez vraiment capables de prendre le lead, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai l'impression quand même... que ça fait une vingtaine d'années que je commente régulièrement la différence entre les deux rives de l'Atlantique et que chaque année ou presque, on me dit « Ah, ça y est, cette année, c'est l'année de l'Europe !» Et puis quelques mois après, en fait, on dit « Bah non, c'était encore toujours pas cette année. » Donc, comment vous les voyez ? Et puis, est-ce qu'il y a des opportunités spécifiques à saisir ? Et notamment, on ferait rimer cette question avec la question de la relance européenne, de la relance de défense européenne. Voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui pourraient devenir peut-être pas les sept merveilleux de l'autre côté, mais peut-être pas loin.
D'abord, dans ce qui s'est passé, il y a des choses rationnelles. C'est-à-dire que la hausse du marché européen de 10-15%, elle s'appuie d'abord sur des publications de résultats en Europe qui ont pas déçu, pas de mauvaises nouvelles économiques, l'idée que quand même les taux vont baisser, l'idée que quand même ce conflit russo-ukrainien va se calmer, et l'idée surtout qu'on ne croyait pas du tout à l'Europe et que il fallait surtout pas investir en Europe. Donc le premier mouvement, je dirais qu'il est facile, mais il nous amène à 10-12%. Ça veut dire que cette année, on attendait des bénéfices à 7-8, plus les dividendes, donc on y est. Donc c'est de voir comment... Voilà,
normalement, on devrait s'arrêter là, entre guillemets.
On va chercher des raisons d'aller plus loin. Et au même moment, les États-Unis, c'est normal, c'est retour au point de départ. On retourne avant l'élection de Trump. Et là aussi, de manière assez logique, parce que l'économie ralentit un peu. Il y a du doute chez le consommateur. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. Comment je peux investir ? Où je mets mes investissements ? Donc, tout ça est très rationnel. Une correction de 10-12% sur les États-Unis, c'est l'avis des marchés. Maintenant, pour aller plus loin sur l'Europe, il faut deux choses. C'est-à-dire que les flux, c'est une histoire aussi d'offres et demandes, les marchés, les flux étrangers sont revenus timidement. Donc, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de monétaires ou d'obligataires qui peuvent s'investir. Donc, il y a de la capacité pour tirer le marché. Alors, peut-être pas sur les, comme vous l'avez dit, Cédric, en allant vers d'autres secteurs. Donc, nous, nos idées, c'est qu'évidemment, il y a toujours des valeurs de croissance qui nous semblent intéressantes, notamment dans les secteurs de la santé. Je peux citer des titres, AstraZeneca, par exemple, dans le domaine de l'électrification. On voit bien que l'IA n'est, hein, il va falloir équiper l'IA, donc l'infrastructure elle doit être là. Ouais. On a des dossiers comme Veolia, et puis à côté de ça, bah, vous avez les banques qui sont dans une situation idéale et elles restent raisonnablement valorisées. Et puis les cycliques qui elles ne sont pas pénalisées par la hausse des taux et avec le thème de la reconstruction, des prix du gaz qui baissent. Donc vous avez la chimie avec des titres, je pourrais citer par exemple comme Arkema, un proxy finalement sur la défense et de se positionner sur l'acier avec Arcelor. Donc on voit bien, là je vous cite des titres dont on ne parlait pas avant.
Oui, bien sûr.
Donc il y a de la place. Et au même moment, je pense qu'il y a un élément important aux États-Unis. Je voudrais parler des Magnific Seven. Donc leurs publications ont été bonnes, mais n'ont pas surpris à la hausse. Donc on est finalement dans un moment où on n'a plus de catalyseur sur ce secteur, où tout le monde a mis de l'argent. Donc même aux États-Unis, je pense qu'il y a des thématiques d'investissement en allant sur de la qualité, mais moins cher que ces sociétés. Donc, il y a quelque chose de plus homogène.
On va redécouvrir voilà. Qu'il y a 493 autres
exactement,
valeurs au sein du SPI.
Exactement. Donc, avec des choses à jouer. Et puis, la Chine, qui, on n'a pas parlé de la Chine, mais qui peut être aussi un élément important. Donc, il y a toujours ceux qui doutent. Il y a ceux qui n'ont pas vu la hausse et qui, finalement, doutent encore de la pérennité. Est-ce qu'on va être capable? Parce que c'était un modèle très mercantiliste, très exportateur. Le consommateur qui vieillit chinois, comment on fait? L'immobilier est difficile. Mais là aussi, au moins boursièrement, il y a les vecteurs pour quelque chose de nouveau et de transformant. Et pour nous, hein, si on veut être positif, il faut quand même que la croissance européenne et chinoise contrebalance un peu le ralentissement américain qui est normal.
Tout se transforme, rien
ne... Voilà.
Juste, quel conseil vous donneriez à un épargnant ce matin qui a forcément, qui a vu la dissolution, qui entend toutes ces questions? Enfin, je veux dire, il n'y a pas une matinale de grande radio nationale qui n'invite presque deux fois par semaine tel ou tel général ou tel expert géostratégique pour savoir si la guerre est à nos portes, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un investisseur particulier, à un épargnant individuel, pour naviguer, on va dire, dans ce contexte économico-géostratégique? Enfin,
je dirais déjà, s'il a moins de 55 ans et qu'il a 15 ans pour investir, les actions, il n'y a pas mieux comme placement si on a ces durées d'investissement. Alors, c'est pas 5 ans, hein, c'est 10, 15 ans, et il n'y a quand même pas mieux que les actions. Et si en plus, il est là à investir régulièrement, finalement, il peut lisser les points. Donc, aujourd'hui, les actions, on l'oublie toujours. Et notamment pour un investisseur français qui doit préparer son épargne, c'est important. Après, probablement, dans les portefeuilles, il a pu être tenté d'entendre qu'il y avait d'affaires que de l'Amérique. Hein. Donc, nous, on a vu des clients qui nous demandaient clairement d'investir sur les États-Unis. Donc, c'est d'être toujours équilibré, hein, parce que l'équilibre, c'est la reine des sagesses. Hein. Et puis aussi, ne pas investir en permanence et régulièrement. Et peut-être que on est aussi à un tournant qui va être aussi sympathique pour la zone européenne. Et même si Cédric, tous les deux, on dit ça depuis, on est déçus depuis 10 ans. Voilà.
On va croiser les doigts. Merci Marc. Marc Favard et Promépar AM qui nous accompagnait ce matin dans Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine. Cédric Decoeur.
Et voilà le gros morceau de cette émission pour cette semaine, gros morceau fiscal, puisque dans quelques semaines maintenant, on va commencer la campagne de déclaration. Et ben, on va se rafraîchir un petit peu les idées pour savoir, après tous ces atermoiements politiques autour de la loi de finances, de voir un petit peu à quelle sauce vos gains vont être taxés pour cette année 2025. Et pour nous guider, pour décrypter tout cela, c'est Jérôme Barré. Bonjour Jérôme.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Avocat associé au cabinet Yards. On va essayer de rentrer dans le détail. On a été obligé de faire des choix, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on a essayé d'en dire le plus possible. Déjà, quelles sont les principales modifications à l'issue de tout ce parcours de combattant du projet de loi de finances? Quelles sont les principales modifications en matière de fiscalité des particuliers?
Merci pour le gros morceau. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de régime depuis un certain temps, mais je vais m'y efforcer. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, une chose dont on parlera très peu, mais qui est très importante, c'est ce qui concerne le management, tout ce qui est management package. Une nouvelle fiscalité sur les gains qui ont été réalisés par les dirigeants et les salariés dans le cadre des investissements dans leur entreprise. Vous savez, les BSPCE, les BSA, les stock options plans, les actions gratuites, etc. Eh bien, ces gains vont être, été imposés comme des plus-values de valeur mobilière à 30%, à la flat tax. Ils pourront désormais être requalifiés en fonction d'un certain volume, de certains coefficients, en traitement et salaire, avec un taux d'imposition progressif pouvant atteindre 45%, voire 49% avec la contribution exceptionnelle sur les revenus, vous savez, de 4%. Et donc l'idée, c'était d'éviter les abus et d'encadrer ces rémunérations. Mais le sujet va être un peu plus vaste que ça. Et ça a été un travail qui a été émis par France Invest et qui fait l'objet de beaucoup de discussions. On peut même penser que peut-être même les carried interest pourraient être touchés par ce sujet, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les mécanismes incitatifs des salariés, d'associations, et qui sont des boosters, vrais boosters, sont touchés par ce mécanisme, et y compris même s'ils étaient dans un PEA.
Ah oui, y compris.
Ah, c'est une question.
Ah oui.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre dans les nouveautés ?
On avait parlé de l'année dernière, on a vu une revalorisation, vous vous souvenez, du barème de l'impôt sur le revenu qui était de 4,8. Cette année, l'inflation ayant baissé, elle n'est plus que d'un 8, mais c'était un sujet très attendu. Si la loi de finances n'était pas intervenue, nous n'aurions pas eu cette revalorisation, ce qui veut dire que beaucoup de personnes seraient tombées dans l'impôt alors qu'elles ne l'étaient pas ou auraient changé de tranche. C'est donc quelque chose de vital. Un plafonnement de certaines réductions d'impôts, notamment pour les crédits d'impôt qui étaient liés à l'emploi des salariés à domicile. On en parlera peut-être après. La création d'une contribution, ça c'est une grande nouvelle. La contribution différentielle pour les revenus, on connaissait la contribution exceptionnelle, CEHR. Maintenant, nous avons la CDHR, la contribution différentielle pour les revenus. Alors, celle qui était exceptionnelle, elle dure depuis M. Sarkozy.
Oui, c'est
une longue exception. Donc, c'est une nouvelle imposition qui garantit un taux d'imposition minimum de 20% sur l'ensemble des revenus, y compris ceux bénéficiant d'un régime dérogatoire. C'est-à-dire que si vous êtes un célibataire, au-delà de 250 000, et vous êtes marié au-delà de 500 000, eh bien, vous pourrez rentrer dans cette... si vous n'avez pas un taux minimum sur les revenus de 20%, taux moyen, eh bien, vous basculerez. Ce qui veut dire aussi concrètement que... on en reparlera aussi un peu après, peut-être. Ça veut dire que dans un certain nombre de cas, flat tax ou pas, ça ne changera rien. Vous serez imposé sur la tranche marginale. C'est ce que ça veut dire. Ça efface la flat tax. Et le deuxième... alors ça, c'est l'assiette. La difficulté, c'est aussi le paiement. On vous demande d'avoir assumé 95% du paiement avant la fin de l'année, en décembre 2025, alors que vous ne savez pas très bien à quelle sauce vous allez être mangé, puisqu'il va falloir faire un rapport entre vos revenus salariaux, par exemple, et votre revenu d'épargne.
Ah, ce qui veut dire payer d'abord, quoi.
Et il faudra payer d'abord. Donc c'est assez particulier. On en reparlera un peu. Donc... ensuite, c'est le renforcement des incitations fiscales pour les dons, c'est-à-dire les réductions d'impôts à 75% pour les dons à des organismes qui luttent contre les violences conjugales. C'est le maintien de plafond de 1 000 euros pour les dons, vous savez, quand on est à 75% de réduction d'impôts. Et pour les dons qui dépassent ce seuil, on aura toujours l'application des taux classiques de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Enfin, pas tout à fait enfin, c'est l'extension du dispositif, vous savez, de défiscalisation pour le patrimoine religieux, on en avait déjà parlé. Donc c'est une réduction d'impôt à 75% quand vous effectuez des dons pour la restauration dans les petites communes. Les petites communes, c'est des communes de moins de 10 000 habitants en métropole et moins de 20 000 habitants en Outre-mer. Et la période d'application, ça serait jusqu'au 31 décembre 2025, c'est juste pour une année. C'est le renforcement du contrôle pour le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile.
Oui. Il faut dire qu'il avait failli avoir un peu de plomb dans l'aile, donc c'est normal que certains aient voulu le contrôler, non ?
Oui, il y a une petite dérive, parce que cette petite dérive, elle ne provient pas généralement de l'emploi direct, elle est engendrée par l'emploi indirect. Vous recourez à une société, puis en fait, c'est peut-être pas tout à fait un employé à domicile. On ne sait pas toujours si les attestations... donc, on veut lutter contre la fraude. Alors, ça, je ne le généralise pas du tout. Hein, c'est un sujet important. Mm-hmm. Parce que ça, il faut s'en souvenir, ça avait été fait pour permettre à des personnes qui étaient employées à domicile d'avoir une retraite. Plutôt que d'être payé discrètement, si je puis dire, de la main à la main et sans passer par les formes officielles, c'était ne pas leur permettre d'avoir une retraite et d'avoir recours à tous les mécanismes sociaux. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais il faut savoir aussi que, justement, on est allé un peu plus loin, notamment par les organismes tiers.
Alors là, on a abordé vraiment toutes les principales modifications. Maintenant, comment est-ce que les gains financiers, je parle les plus-values, les dividendes, enfin tout ça, comment ça va être taxé en 2025 ?
Le principe général reste toujours la flat tax. 30%, c'est depuis 2018. Et on se souvient que la flat tax est 12,8% de plus-value et 17,2% de CG-CRDS, de charges sociales. Et on peut aussi opter pour le barème progressif. Ce principe existe toujours. À cette flat tax, si vous avez dépassé, on en a parlé tout à l'heure, c'est les mêmes seuils, 250 000 euros pour une personne seule, 500 000 euros, là vous avez une contribution exceptionnelle de 3%. Et si vous êtes au-delà de 500 000 pour un célibataire et 1 million pour un ménage, eh bien vous passez à une CEHR de 4%. Donc vous êtes déjà à 30 plus 4, c'est-à-dire 34%. Donc ce principe-là...
Mais pour des revenus conséquents.
Pour des revenus importants, mais c'est-à-dire c'est tous les revenus du foyer, hein, c'est pas uniquement vos revenus d'épargne. C'est-à-dire que si vous êtes salarié et que vous avez déjà une bonne rémunération, mais que vous avez par ailleurs des revenus d'épargne, et que ces revenus d'épargne vous font franchir ces seuils, vous tapez tout de suite dans les 3 ou 4%. Ça n'est pas dédié aux revenus de l'épargne.
D'accord.
Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la contribution différentielle sur les revenus, la CDHR. Donc, on souhaite une imposition minimale de 20% pour les hauts revenus. Et si le taux global d'imposition est inférieur, eh bien, la différence devra être payée. On va donc faire un premier calcul pour voir si oui ou non vous êtes à 20%. Et si vous n'y êtes pas, on vous remonte à 20%. Donc là encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, les seuils et toujours cette question de la compte.
Et il y a, c'est presque un gros mot, mais il y a une stratégie qu'on peut mener
Alors, la stratégie, c'est de se dire que on ne sait pas combien de temps cette loi va durer.
D'accord.
Alors, on est un peu en test, puisque le test, il faut s'en méfier, il faut être à double tranchant. Le gouvernement dit, si je récupère un peu de fonds, j'arrêterai cet impôt. Donc, on est en train de se dire qu'il vaudrait peut-être mieux payer. Mais d'un autre côté, comme on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé demain, quelles que soient les circonstances, eh bien, l'idée pourrait être de dire que je vais dériver mon revenu de cette année, soit mes gains en capitaux, soit donc choisir peut-être un peu plus parmi mon portefeuille ce qui est susceptible d'engendrer de la moins-value, immédiatement, de façon à diminuer mon revenu taxable, le cas échéant. Je vais privilégier plutôt l'épargne sur mes PEA ou sur mes contrats d'assurance vie, puisqu'à ce moment-là, je suis à l'intérieur du système. Ou bien, je vais dire que cette année, on le voit l'année dernière, en quatrième vitesse, si je puis dire, beaucoup d'entreprises ont décidé de distribuer un dividende. Ce qu'elles ont distribué cette année, en volume qui était important, elles ne le distribueront peut-être pas cette année.
Bien sûr.
Enfin, l'année dernière, pardon, ce qu'elles ont distribué l'année dernière, elles ne l'en distribueront pas cette année. Donc ça, c'est un sujet. C'est quand même une petite stratégie, mais c'est une stratégie du ralentissement.
Vous nous avez rappelé que le principe, entre guillemets, général, ça restait ce prélèvement forfaitaire unique, cette fameuse flat tax. Est-ce qu'il y a malgré tout des changements dans ce PFU?
Alors, on dit que quand on crie trop au loup, eh bien, finalement, les bergers ne viennent pas vous aider, les bergers voisins. Mais en matière fiscale, quand on commence à crier au loup, c'est que le danger va arriver. Alors, le gouvernement Bayrou, il avait envisagé de passer la flat tax de 30 à 33%. Ça avait déjà été évoqué, même, je crois, sous M. Barnier. Mais cette mesure n'a pas été retenue pour la loi de finances pour 2025. L'objectif affiché, c'était de d'engendrer 800 millions supplémentaires pour réduire le déficit public. Alors, pourquoi une hausse de ce PFU poserait problème? C'est un signal négatif pour les investisseurs. C'est une question d'une instabilité fiscale. On a vécu aussi une période de stabilité fiscale, quoi qu'on en dise, assez longue et assez forte. Et on s'était habitué. Qui était bienvenue, on s'était habitué à ça. Alors maintenant, revenir à ce qu'on a connu par le passé, on a effectivement un peu de mal. Et donc, c'est une perte d'attractivité pour les capitaux étrangers, notamment. C'est un impact direct pour les épargnants. Ça ne concerne pas seulement les contribuables aisés, mais ça va concerner tous les épargnants, les travailleurs indépendants, les jeunes entrepreneurs, ceux qui se constituent un bas de laine, les retraités qui travaillent pour leur retraite, etc., etc. Donc, c'est un risque de détournement de l'épargne vers des supports qui vont être moins fiscalisés ou des stratégies d'optimisation. Donc, c'est une réforme qui est à surveiller dans les années à venir. C'est 2025, c'est peut-être un répit, mais le sujet pourrait revenir sur la table en 2026. La difficulté que nous avons, c'est d'avoir des lois de finances qui sont certes à volonté de récupérer des fonds, mais sont aussi de faire plaisir à certains, et on le voit bien aujourd'hui. En disant ça, je ne fais qu'un constat, je ne fustige personne, mais on a quand même bien un réflexe de celui qui criera le plus fort sera le premier servi. Donc, c'est quelque chose qui pourrait revenir pour des raisons politiques ou pour des raisons d'équilibre politique ou présentées comme ça. Et puis, parce que le gouvernement aura peut-être à nouveau, ou c'est probable d'ailleurs, besoin de renforcer ses recettes fiscales. Et donc, les investisseurs, il faut qu'ils restent très attentifs à ce qui se pourrait passer et anticiper, si c'est possible, ces évolutions fiscales.
Alors là, on parlait des revenus du capital. Pour ce qui est de l'investissement immobilier, on sait que les Français, ils ont une pierre dans le ventre. pour tout ce qui est investissement immobilier, revenus locatifs, etc. Il y a des impacts de cette loi de finances ?
Alors oui, parce que vous l'entendez sur les ondes d'une façon générale, mais la location meublée non professionnelle, c'est l'objet de tous les feux.
Et oui.
Des communes se plaignent d'avoir trop de visiteurs qui ne sont pas les bons consommateurs. Les hôteliers se plaignent qu'on ne vienne moins chez eux et qu'on ne vienne plus. Donc, c'est un sujet qui est travaillé. Entre nous, si vous avez une résidence secondaire et que vous la louez de temps à autre, ça ne deviendra jamais une résidence principale. Donc, le leurre qui consisterait à penser que tout ce qui est loué en meublé professionnel redeviendra un jour de résidence principale, probablement pas. Probablement pas. Donc, le coup dur, c'est pour la location. Donc, c'est la fin d'un avantage fiscal majeur. Tout d'abord, c'est la possibilité de déduire les amortissements. C'est-à-dire que la plus-value, au moment où vous céderez le bien, eh bien, on vous rappellera les amortissements qui ont été effectués. Et donc, à quelques jours près, ceux qui ont pu vendre en tout début d'année versus ceux qui vont vendre maintenant, on se retrouverait dans une situation où ils vont réintégrer dans le calcul de la plus-value. Et par définition, ce sont des résidences secondaires. Ça peut arriver qu'on ait des amortissements pour la résidence principale, mais c'est mis... Enfin, on ne le fait pas, d'ailleurs, je dis ça, c'est une idiotie. C'est les résidences secondaires que l'on loue, et c'est là où on a de l'amortissement. Ou c'est quelque chose que l'on loue, bon, la maison de vacances en particulier. Donc ça ne va plus marcher, et c'est quelque chose qui va... Alors, ça ne concerne pas les résidences étudiantes, les résidences seniors, mais c'est compliqué. L'objectif du gouvernement, je l'expliquais, c'est de rééquilibrer finalement une espèce de fiscalité locative. C'est lutter contre l'optimisation fiscale massive des LMNP en zone tendue. Et c'est favoriser le marché de la location d'une UG plus stable et plus accessible. Mais là encore, est-ce que ce n'est pas un leurre, hein ? Les conséquences pour les investisseurs, c'est la réduction de l'intérêt pour le LMD.
Il y a des histoires de frais de notaire, non ?
Oui. Alors, dans un premier temps, on vous dit que...
Quand on dit frais de notaire.
On dit frais de notaire.
On va encore se faire tirer les cheveux par les notaires.
Alors, dans les frais de notaire, vous le savez, il y a une partie pour les notaires, mais il y a une grosse partie pour l'État. Donc, on dit ça en frais de notaire parce que c'est simple, mais de s'en souvenir. Mais alors,
ça, les là encore, droits de mutation, c'est ça, dans
encore,
le vrai langage.
Les droits de mutation, qui ne sont pas à titre gratuit, à titre onéreux. Dans un premier temps, on vous dit que l'on va étendre les prêts à taux zéro dans toutes les zones. Autrefois, c'est les zones tendues, maintenant, c'est toutes les zones. Mais dans le même temps, on vous dit aussi qu'on va augmenter de 0,5% ses frais de notaire. Or, la principale difficulté des accédants, ce n'est pas de rembourser l'emprunt, c'est la mise de départ. Et dans la mise de départ, il y a aussi les frais de notaire. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, augmenter de 0,5% dans un marché qui était déjà en marasme et avec des plus-values qui ne s'éteignent qu'au bout de 30 ans,
pour oui, c'est ça.
C'est rien, ça va être difficile. Bercy prévoit un gain de 800 millions d'euros. On verra ce que ça donnera. Mais c'est difficile. Donc, on a quand même un marché immobilier qui est sous pression, une hausse des coûts d'acquisition. C'est déjà compliqué avec des taux d'intérêt élevés, même s'ils commencent à baisser. Et on peut avoir à nouveau un risque de frein sur les transactions immobilières.
On continue à parcourir les différentes classes d'actifs. Et c'est vrai qu'on a pas mal de questions sur les cryptos, les actifs numériques, etc. Concernés toujours par cette loi de finances ?
Alors, vous vous souvenez que les cryptos, ce que l'on avait souhaité, c'est qu'elles rentrent dans le champ, qu'elles soient connues, qu'elles soient déclarées. Et que tout ça soit, autrefois, quand vous transfériez les cryptos de crypto, mais maintenant on vous dit, voilà, le régime a changé. En tout cas, on sait, on a de la visibilité, et on les a considérés comme des instruments un peu comme les autres. Sauf que là, on veut savoir d'où ça vient. Donc, on a un renforcement des obligations déclaratives des prestataires de services sur les cryptoactifs, ça s'appelle PSAN. Et donc, c'est une nouvelle réforme qui impose aux plateformes crypto d'identifier leurs utilisateurs et de transmettre ces informations à l'administration fiscale. L'idée, c'est de savoir d'où viendrait de la fraude, et notamment de la fraude sur l'origine des fonds. Donc, les informations concernées, c'est l'identité de l'utilisateur, le numéro d'identification fiscale, le détail des transactions effectuées, un peu comme le ferait une banque, finalement,
oui, bien sûr.
Pour des plateformes qui ne sont pas forcément des banques. Ces données pourraient être communiquées, ou pourront, ou devront être communiquées à l'administration fiscale, ou à celle d'un État partenaire. C'est un peu comme le CRS, vous savez, le Common Reporting Standard, quand on a des comptes à l'étranger. On dit, voilà, il y a un compte de Monsieur Z qui est à l'étranger, et on le donne à la juridiction de celui qui appartient, de la résidence à laquelle il appartient. Et la mise en application, ce sera à partir du 1er janvier. Donc ça, c'est assez nouveau.
2026, hein.
2026, pardon, oui. C'est assez nouveau. Mais là encore, donc une responsabilité qui va être accrue pour les utilisateurs, c'est que s'ils ne répondent pas, attention, pas de communication des données dans les délais, avec deux rappels et un délai de réponse de 60 jours, et on va bloquer la plateforme d'accès aux informations. De la même manière, si on n'est pas capable de dire d'où viennent les fonds qui ont engendré les cryptos, on peut vous réclamer 60%, comme si c'est quelque chose qui vous venait d'un tiers et que c'était une donation. Souvenez-vous que dans la régularisation des comptes à l'étranger, et ça existe, un article L123C du Code général des impôts, c'est pas L d'ailleurs, c'est 123C, qui vous dit que si vous n'êtes pas capable de justifier à l'origine de la période prescrite, c'est-à-dire au bout de 10 ans en arrière pour des comptes non déclarés, l'origine des fonds, eh bien on peut vous taxer à 60%.
Oui.
On en est dans le même schéma. Ça, c'est
oui.
très violent.
Oui, c'est...
très violent parce que ça veut dire que vous perdriez 60% de votre masse. C'est très cher. Donc, il vaut mieux garder
c'est
les papiers.
C'est pas de la plus-value, c'est de la masse.
C'est de la masse. Il vaut mieux garder les, papiers.
Quelles sont les mesures incitatives qui sont programmées, je pense notamment à l'épargne, à l'investissement, enfin...
Alors, il y a une hausse de la réduction d'impôt Madelin pour les FCPI. C'est-à-dire qu'on a une augmentation du taux de réduction d'impôt pour les souscriptions en numéraire des parts de fonds communs de placement dans l'innovation. C'est un passage de 18 à 25% du montant investi. C'est applicable aux FCPI agréés entre le 1er janvier 24 et le 31 décembre 25, agréés. Sous réserve de la validation par la Commission européenne. Et l'objectif, c'est de soutenir l'investissement dans l'innovation et encourager les particuliers à faire quelque chose qui soit pour financer les entreprises et même dans un niveau européen. Ensuite, on a une extension de l'avantage fiscal pour les jeunes entreprises innovantes, vous savez, les JEI. Jusqu'ici, donc, les contribuables pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt de 30% lorsqu'ils investissaient directement, mais pas quand ils investissaient indirectement, notamment au travers d'un fonds commun de placement. Eh bien, maintenant, c'est possible. Vous pouvez avoir le même avantage que vous investissiez directement ou au fonds commun de placement. L'avantage, peut-être, du fonds commun de placement, s'il est sérieux, mais on va supposer qu'il l'est, c'est d'avoir affaire à une plateforme que auquel vous ne pourriez pas accéder avec un range, une dimension un peu plus large. Également, un récent changement pour les FIB, vous vous souvenez, c'est les fonds d'investissement de proximité.
Ouais.
Voilà, c'est la suppression de l'avantage fiscal pour les FIB métropolitains. Les contribuables ne pourront plus bénéficier de réduction d'impôt pour les souscriptions des FIB aux entreprises situées en métropole. Ben oui, c'était hier. En fait, on va se focaliser sur ce qui concerne la Corse et l'Outre-mer, c'est-à-dire la réduction d'impôt, elle est maintenue. Pour les FIP qui sont investis à 70% au minimum dans les entreprises situées en Corse ou dans les DOM-TOM, le taux de réduction d'impôt de 30% pour les contribuables domiciliés fiscalement en France. Et l'objectif, c'est de renforcer ce financement parce qu'on sait que dans ces contrées, le financement est plus délicat, plus difficile.
On sait qu'il y a souvent des tas d'abattements, d'exonérations de plus-value, etc., qui viennent un petit peu rendre la douloureuse plus acceptable parfois. Est-ce qu'il y en a quelques-unes dont il faut parler ?
Alors, vous vous souvenez là encore que ce que l'on attendait avec la loi de finances, c'était premièrement que l'on puisse avoir un rehaussement des tranches par l'inflation. Et le deuxième sujet, c'est est-ce que l'on va prolonger la possibilité pour des dirigeants de PME d'avoir un abattement de 500 000 euros en cas de cession de l'entreprise. Ça, c'est tout ce qui concerne les petites PME. Et l'idée, c'est la retraite. Hein. C'est toujours la même chose. Donc ça a été prolongé. C'est une bonne nouvelle. C'est un avantage qui devait expirer fin 2024. Il est prolongé jusqu'en décembre 2031. Il s'applique quelle que soit l'option retenue, que ce soit un prélèvement forfaitaire unique à 30% ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
D'accord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Première nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est on a la même chose pour le secteur agricole, mais là, on n'est pas à 500 000 euros, on va passer à 600 000. Donc là, c'est d'encourager les transmissions d'exploitation agricole, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui.
Comment on se comporte dans cette loi de finances vis-à-vis des non-résidents fiscaux français qui, malgré tout, détiennent des actifs en France ?
Alors, on voit bien que tout ce qui est intervenu et tous les propos qui ont été lancés sont des propos assez anxiogènes pour un certain nombre d'entrepreneurs. Et donc, l'idée, ou de famille, c'est de se dire « on part ».
Eh oui.
J'ai envie de dire que globalement, dans 99% des cas, les gens qui partent, ils partent vraiment. Mais là, on s'est dit qu'il fallait donner des petites sonnettes en disant « attention, hein, si vous partez... » Parce qu'on peut partir, être de bonne foi, mais se retrouver dans une situation fiscale délicate parce que la convention est difficile. Eh bien là, l'administration, maintenant, qui pouvait revenir en arrière sur 3 ans plus l'année en cours, ce qui est du contrôle ordinaire, quand vous serez parti, eh bien, elle pourra revenir sur 10 ans plus l'année en cours.
Ah oui.
Là encore, c'est une marge qui est beaucoup plus grande. Ça va concerner l'impôt sur le revenu, ça va concerner les droits d'enregistrement, et ça va concerner l'IFI, qui est un droit d'enregistrement assimilé. Donc, si jamais un contribuable est suspecté de ne pas avoir rempli les bonnes conditions pendant toute
cette période...
Il peut se faire reprendre sur 10 ans.
Oui.
Donc, ce délai spécial, il ne va pas concerner les revenus non déclarés dans les délais légaux. et il ne s'applique pas non plus aux erreurs de catégorisation des revenus. La vraie question, c'est de savoir si vous êtes ou non résident fiscal français, ou si vous ne l'êtes plus, vraiment.
Donc voilà donc pour ces étrangers, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire un mot de tout ce qui est transmission de patrimoine, les successions, les donations ? Là aussi, c'est une thématique fiscale qui a beaucoup fait jaser.
Alors, là encore, enfin, des avantages. Une exonération temporaire pour les dons de sommes d'argent. Les dons de sommes d'argent, une des difficultés là encore, c'est qu'on peut avoir des... Nous, vous le souvenez, nous sommes en France, je dis nous. On est taxé en fonction du lien de parenté.
Bien sûr.
Vous vous souvenez également qu'on ne peut donner en franchise d'impôt que 100 000 euros par parent et par enfant, que n'est pas péjoratif du tout, mais tous les 15 ans. Alors là, on va vous permettre d'avoir un abattement exceptionnel de 100 000 euros supplémentaires par donateur cette année, pas l'année prochaine pour l'instant, cette année. Et si vous cumulez, vous aurez le droit de cumuler les grands-parents, les oncles et les neveux sans enfants, etc., etc., qui fait qu'on pourra donner à un enfant 300 000 euros en franchise d'impôt dans l'hypothèse où il va financer l'acquisition d'un logement neuf.
Il y a une condition.
Où on va faire. Ah oui, il y a une condition. Alors, soit vous l'acquérez pour l'habiter, soit vous l'acquérez pour le louer. Si vous l'acquérez pour l'habiter, il ne faut pas l'habiter moins de 5 ans. Et si vous le louez, il faut qu'il ait conservé sa destination et il faut qu'il soit loué en résidence principale. Ce qui là est plus difficile parce que vous pouvez avoir des personnes qui parfois peuvent ne rien vous dire d'ailleurs. Ouais. Donc il faut bien marquer dans le bail, il faudrait être très très précautionneux sur ce sujet-là. Donc vous permettre de bénéficier de ces 300 000 euros. Et également, si vous faites des travaux, vous savez, verts, la rénovation énergétique dans la résidence principale, vous pourrez bénéficier
dans
de
votre,
ce...
Dans notre propre résidence principale.
Oui, vous pourrez bénéficier de ce système. Donc les engagements, on les a vus de ces 5 ans. Ce dispositif se cumule avec les dispositifs existants. Donc si vous n'avez rien donné à vos enfants, c'est le moment de leur donner 100 000, plus 100 000, et si les grands-parents veulent faire un effort, peut-être plus 100 000 aussi. Donc c'est un vrai coup de, coup de boost.
Un vrai coup de boost, mais attention aux conditions.
Et c'est valable que c'est temporaire, ça se termine le 31 décembre 2026. C'est pas très très long. Bon. Et le délai de 6 mois, vous devez, quand vous avez transféré, il faut que l'investissement ait lieu dans les 6 mois. Si vous n'êtes pas dans les 6 mois, c'est pas bien.
Allez, on termine peut-être avec, en essayant de voir un petit peu ce qu'il y a devant nous aussi maintenant, les principaux défis auxquels les particuliers vont faire face en 2025 en termes fiscaux.
Alors, personne n'est Madame Irma qui voit tout. Mais il y a une tentation
quand
même.
Parfois, vous lisez plus que nous.
Il y a une tentation de retour à l'ISF. Ouais. Ça, on le sent, là encore, pour des raisons politiques, mais elles sont là. Donc, si on avait un retour à l'ISF, sous une forme peut-être remodernisée, on ne le sait pas, il y aurait quelque chose. Et donc, il y en a qui plaident pour une fusion IFI et taxe sur le patrimoine financier. Donc, en fait, peut-être que tout ne rentrerait pas dans cette nouvelle imposition sur la fortune, mais le patrimoine financier peut-être au-delà d'un certain seuil, peut-être un peu plus important. Ça, c'est quelque chose qui est dans les tubes. On ne sait pas si ça sortira. C'est un débat politique sensible et qui pourrait émerger avec les élections de 2027. On voit encore une espèce aussi de notion de justice sociale. Est-ce que ça rapportera beaucoup? Je ne sais pas. Est-ce que ça coûtera plus que ça a rapporté? Il y a des pays comme la Suède où on s'est aperçu que l'impôt sur la fortune coûtait plus qu'il ne rapportait, dans la gestion même de l'impôt. Est-ce qu'on aura une augmentation de la flat tax? C'est aussi une tentation, parce que le débat, c'est fruit du travail et fruit de l'épargne. Le rapport entre le poids-puissance, entre le risque et puis l'engagement personnel, physique ou intellectuel, il n'est pas traité, mais une hausse de 33% avait été évoquée. Malheureusement, dans ces cas-là, les hommes politiques ont de la mémoire, ou les femmes politiques ont de la mémoire.
Même s'ils ont un peu du mal à expliquer que quand on passe de 30 à 33, on augmente de 3%, que ce n'est pas grand-chose, alors qu'en fait, on augmente de 10%, mais ça, ils ne savaient pas le calculer.
Exactement. Exactement. Non, mais ça, c'est... La stabilité a un sens. La stabilité a un sens. Et ça a fait marcher parce que, d'une façon ou d'une autre, l'argent qui a été distribué a beaucoup servi, malgré tout, et a été redispatché. Je termine par deux points, peut-être. La contribution différentielle sur les hauts patrimoines, puisque vous vous souvenez qu'on se disait, c'est pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, c'est sur les hauts patrimoines. C'est dire, voilà, les patrimoines devront être taxés au minimum A, parce qu'il y a des personnes qui vivent, par exemple, sur des comptes courants, et pour lesquels les revenus sont encapsulés dans des mécanismes de holding ou dans des mécanismes de SICAV ou de contrat d'assurance vie. Donc, il y a là encore un souci, de pour certains du moins, de rectification. Et puis, ce que l'on voit, ce que l'on imagine, mais Ça, je crois qu'on en avait parlé il y a quelque temps. C'est qu'avec l'IA, il va y avoir un renforcement du contrôle des particuliers, tous azimuts. Et les particuliers descendent assez peu dans la rue pour manifester. Donc, ce seront des cibles de choix. À eux d'être bien conseillés, hein, évidemment. Mais l'intelligence artificielle va probablement...
Il y en a qui vont trouver l'IA moins fabuleux, moins fantastique.
Des petits coups de crayon, oui. Hein.
Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme Barré, pour avoir décortiqué tout ça. On a essayé de vous en dire le plus possible, à vous de picorer, bien évidemment, dans le podcast, si vous êtes arrivé en cours d'émission. Merci, Jérôme, d'être passé nous voir pour le cabinet Yards. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. On se retrouve la semaine prochaine.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.